Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être encore fidèle au rendez-vous de Mélomanie. Bienvenue à tous ceux qui découvrent le magazine de l'actualité musicale toulousaine et régionale. Une actualité qui a redémarré doucement ce début d'année après la période des fêtes. Mais ne vous inquiétez pas, beaucoup d'événements s'annoncent pour les semaines à venir et les mélomaniacs sont là pour vous les présenter. Aujourd'hui, un seul est à mes côtés pour m'assister dans cette lourde mais passionnante tâche. Un seul, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur musical pour La Voix du Midi et le site Culture 31. Il y a un autre invité à la table de Mélomanie et même un invité d'honneur, Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur de l'Orchestre Baroque des Passions de Montauban, que je me réjouis de recevoir pour la première fois dans cette émission pour évoquer avec lui les prochains concerts et la saison de la formation qu'il dirige. Avant cela, c'est l'actualité musicale de la semaine passée qui va nous intéresser lors de la première partie de cette émission.
Mélomanie, retour arrière.
L'actualité de la semaine dernière était un peu réduite, il est vrai. Il faut bien redémarrer l'année en douceur. L'Orchestre National du Capitole a été très sollicité lors des dernières semaines de l'année 2017 avec les nombreuses représentations de Casse-Noisette et les trois concerts du Nouvel An. Et pourtant, Dougan Sokiev et ses musiciens étaient encore sur le plateau de la Hallograin samedi lors d'un concert où ils ont joué la symphonie numéro 9, la Grande, de Schubert et le concerto pour piano numéro 4 de Beethoven. Pour ce dernier, ils ont accompagné la grande pianiste russe Elisabeth Leonskaya. Nous vous avions annoncé ce concert la semaine dernière et nous étions présents tous les deux, Serge Chauzy et moi-même, à cette soirée. Je crois, Serge, que nous serons d'accord pour dire que nous avons entendu une belle version de ce magnifique quatrième concerto de Beethoven avec une Elisabeth Leonskaya qui est certainement aujourd'hui au sommet de son art, en tout cas de sa musicalité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah bah écoutez, c'était on s'y attendait, hein. C'était une interprétation pleine d'une autorité, d'une maîtrise absolue et d'une palette de couleurs et de nuances vraiment incroyable. C'est-à-dire, c'est une pianiste qui aussi bien peut s'éclater, je mets des guillemets, dans des fortissimi impressionnants et puis murmurer au clavier des phrases d'une sensibilité, d'une douceur magnifique. Alors ce concerto numéro 4, j'aurais la faiblesse de dire que c'est mon préféré, c'est le plus imaginatif, puis il a un mouvement qui est complètement unique, c'est le deuxième mouvement, qui est un andante con moto, et qui est une espèce de combat entre l'orchestre et le piano. Et vous savez qu'il y a certains exégètes qui ont dit que ce mouvement représentait en quelque sorte Orphée tentant d'apprivoiser les forces infernales pour aller rechercher Eurydice. Et donc, et c'est un peu dans cet esprit qu'elle l'a joué, avec une douceur, une humilité dans les répliques à l'orchestre qui est assez violent et assez affirmatif. Donc ça a été vraiment un grand moment, plein d'émotions pour ce mouvement et pour tout le concerto.
Oui, alors ce quatrième concerto de Beethoven, on a coutume de dire qu'il inaugurait un genre un peu nouveau, c'est-à-dire que c'est à la fois une symphonie pour orchestre et une espèce de fantaisie pour piano, c'est un peu ce que vous venez de décrire.
Oui, c'est tout à fait ça, tout à fait ça. Puis il y a des nouveautés, par exemple le premier mouvement commence de manière tout à fait inhabituelle par le piano tout seul. Oui. Plein de recueillements qui donnent le premier thème et puis l'orchestre reprend. Alors que le dernier, c'est l'inverse. Le dernier, c'est l'orchestre qui commence et qui suggère au piano un rythme, une mélodie et puis l'orchestre enchaîne. Hein. Donc il y a cette espèce de dialogue entre le piano et l'orchestre. Alors ce que j'ai trouvé remarquable dans cette interprétation, c'est le bel équilibre qu'il y avait entre le piano et l'orchestre. Quelquefois, le piano est avalé par la puissance orchestrale, là, c'était pas le cas.
C'est une des difficultés des concertos en général, que ce soit pour piano ou pour d'autres instruments.
Oui. Et donc là, c'était vraiment, avec Dougan Sokiev, ils s'entendent magnifiquement. Non, mais il est évident qu'Elisabeth Leonskaya a une certaine tendresse pour Dougan Sokiev.
Oui, il commence à y avoir une longue histoire maintenant entre
une longue histoire. Et l'orchestre. Il faut préciser que leur entente est telle que c'est elle qui a décidé d'enregistrer à Toulouse l'intégrale des concertos pour piano et orchestre de Beethoven avec l'Orchestre National du Capitole et Dougan Sokiev. Et dans une interview que j'avais réalisée d'elle, elle m'avait confié, c'est la l'un de mes chefs d'orchestre favoris.
Si en parlant de peut-être le favori, elle n'a peut-être pas voulu vexer les autres. J'ai l'impression qu'il y a une complicité qu'elle n'a pas avec d'autres chefs d'orchestre.
Oui. Donc ça a été vraiment magnifique.
Se sont touchés, puis elle rend au piano sa percussivité tout en faisant chanter le piano, ce qui n'est pas si commun que ça. Hein. Alors, on va parler de ce fameux CD d'enregistrement des 5 concertos pour piano de Beethoven avec Elisabeth Leonskaya. On va parler du concerto numéro 2. Avant, je voudrais qu'on parle de l'autre œuvre qui a été jouée ce soir-là. La 9e symphonie de Schubert. Alors, on dit 9e, ça dépend des pays. J'ai vu qu'il y a des pays pour d'autres, c'est la 7e, d'autres, c'est la 8e. En tout cas, c'est la dernière qu'il a achevée.
Oui, qu'il est achevé, qu'il n'a jamais entendu.
Qu'il n'a pas eu le temps d'entendre, mais qu'il a achevé.
Il est mort avant, et la partition n'a été découverte que 10 ans après sa mort.
Oui.
Et c'est Schumann.
Grâce à Schumann.
Voilà, c'est Schumann qui a découvert la partition, et qui l'a donné à diriger
à Mendelssohn,
ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc, Schumann et Mendelssohn étaient amis, évidemment, et puis ils ont fait beaucoup pour les musiques du passé. Écoutez, Mendelssohn, c'est quand même lui qui a ressuscité la Passion selon Saint-Matthieu de Bach. Donc, ce sont vraiment des musiciens, des compositeurs.
Et des bienfaiteurs de la musique, du coup.
Voilà.
Tout compositeur est un bienfaiteur.
Particulièrement généreux.
Et alors, la performance de l'orchestre, là, cette fois-ci, seul, avec cette 9e symphonie de Schubert.
Oui, il l'avait bien travaillé, apparemment. Hein. Il y avait un bel équilibre, un sens des tempi. Alors, l'ouverture assez solennelle, assez lente, et puis ensuite les choses s'animent. C'était vraiment très bien. Et puis, bon, on peut reconnaître que quand même, cet orchestre a maintenant des solistes dans les pupitres.
Dans tous les pupitres.
Qui sont magnifiques. Le hautbois.
Ah oui, là, notamment dans cette œuvre.
Et magnifique. Enfin, bon, ça a été, son solo a été d'ailleurs très applaudi à la fin, hein, donc, lorsque Tuban Sokiev l'a fait lever.
Les hautbois et les clarinettes, d'ailleurs, ont un rôle très important.
Oui, très important. Donc, c'est vraiment une symphonie. Alors, une symphonie copieuse, entre guillemets, puisqu'elle dure pratiquement une heure. Hein, et c'est ce qui a fait dire à Schumann qu'il y avait dans cette œuvre de divine longueur. Et on l'a mal interprété en français en disant, oui, il y a des longueurs. Il y a même un critique qui a déclaré que Schubert avait composé 2 symphonies. L'une est inachevé, l'autre est interminable. Bon, c'est vraiment pas
très gentil. Parce qu'à l'époque, on n'était pas habitué à des symphonies.
On n'était pas habitué. Oui. À part la 9e de Beethoven, ça devait être
à l'époque la plus longue.
Ouais. Hein, donc, mais vraiment très bien. Et puis, Tuban Sokiev a bien différencié les 4 mouvements. Hein, donc, c'était très très beau. Ça a eu un immense succès, d'ailleurs.
Ah oui, moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Alors, on revient au concerto de Beethoven, parce que la veille du concert du 6 janvier, il y en a eu un autre qui, lui, était privé, on peut le dire.
Concert privé, organisé pour l'association AIDA, qui est l'association...
Qui a l'orchestre
depuis... Voilà, association l'orchestre depuis bientôt 30 ans, l'année prochaine. Et donc, qui est l'association qui subventionne, en fait, les tournées de l'orchestre, tout ce qui est enregistrement.
Et alors donc, ils ont joué le vendredi. Voilà. Il y avait aussi le 4e concerto de Beethoven. Il y en avait un autre, lequel ?
Et le 2e, donc, qui était joué évidemment encore en soliste, et enregistré donc en direct pour figurer dans
le futur CD de l'intégrale.
Le futur coffret d'intégrale CD de ces concertos. Et là aussi, c'était tout à fait magnifique. Hein. Alors, c'est un concerto plus virtuose, et très difficile, paraît-il. Donc là, elle a fait ça magnifiquement aussi, évidemment, avec toujours pareil, ces échanges entre l'orchestre et le piano, ça marche très bien.
Alors peut-être pour les resituer dans le temps, le 4e concerto, c'est 1806, il est contemporain de la 4e symphonie de la sonate Appassionata. Le 2e est
1795, il a été créé. Donc la création, pour la première fois, c'était un grand concert auquel participait Beethoven lui-même, qui jouait évidemment le piano solo. Et on sait que la partition a été achevée pratiquement la veille de l'exécution et que ça a connu un très très grand succès. Et il avait augmenté l'orchestre par rapport à l'orchestre mozartien, puisqu'il y avait une flûte de hautbois, de basson, de cor, ce qui était un peu inhabituel pour l'époque.
Oui, alors effectivement, c'est lui qui est au piano lors de la création. Et déjà à l'époque, il entendait très très mal, le pauvre.
Il commençait à mal entendre. Mais les choses sont devenues dramatiques en 1802, l'année du fameux testament de Heiligenstadt, le testament qu'il a rédigé parce qu'il voulait en finir avec la vie. Il était tenté par le suicide. Il a écrit un testament qui est une merveille d'écriture qu'il faut absolument lire, hein, que l'on peut trouver sur Internet en version originale et en traduction. c'est vraiment bouleversant ce qu'il écrit à propos de ses contacts avec le reste du monde.
Avec le monde extérieur.
Donc, et le concerto, le quatrième concerto est postérieur au testament d'Heiligenstadt, alors que le deuxième est antérieur.
Oui. Alors, les beautés de ce deuxième concerto, je crois que le troisième mouvement notamment, très dynamique, très rythmique, comme souvent d'ailleurs les troisièmes mouvements des concertos de Beethoven,
oui, oui.
Magnifique.
Oui, absolument. Oui, et là, ça a été vraiment un petit feu d'artifice, là, très très bien. Très bon.
Donc, ce coffret devrait être magnifique aussi, si je comprends bien.
Oui, tout à fait.
Il restera le premier à enregistrer, puisqu'ils vont terminer par le premier.
Le premier en septembre.
A priori en septembre, oui. C'est un peu ce que m'ont dit les musiciens de l'orchestre. Je crois que ce n'est pas encore tout à fait confirmé, mais il devrait terminer en septembre. Et le CD sortira 2018,
dans l'année, 2019. Vers la fin de l'année ou début de l'année suivante.
Fin 2018, 2019. Ouais. Et nous vous tiendrons bien entendu informés de la future sortie de ce CD, de l'intégrale des concertos de Beethoven par l'Orchestre du Capitole et Elisabeth Leonskaya. Et ben, je propose qu'on écoute maintenant un extrait de ce deuxième concerto, interprété bien sûr par Elisabeth Leonskaya. Il s'agit du troisième mouvement dont je vous parle à l'instant, Rondo Molto Allegro. Le troisième et dernier mouvement du concerto pour piano numéro 2 de Beethoven, interprété par Elisabeth Leonskaya, avec laquelle nous terminons cette première partie d'émission. Pause d'une petite minute avant de nous retrouver pour la seconde partie et l'agenda. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix.
Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
La seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour La Voix du Midi et Culture 31, et donc Jean-Marc Andrieux, fondateur et directeur de l'Orchestre des Passions de Montauban.
Mélomanie, l'agenda.
À nous, Jean-Marc Andrieux, que je suis très heureux de recevoir pour la première fois à Mélomanie, même si j'ai déjà eu l'occasion de vous recevoir dans d'autres émissions les années précédentes. Pour moi, c'est toujours un plaisir, un honneur de vous recevoir. En parlant d'honneur, justement, il se trouve que ces derniers mois, vous avez été honoré à titre personnel à deux reprises. D'abord, en recevant les insignes de Chevalier des Arts et Lettres. Je ne vais pas insister là-dessus parce que je ne voudrais pas mettre à mal votre légendaire modestie. En revanche, je voudrais que l'on parle du livre des commémorations nationales 2018 auquel vous avez participé. À la demande du ministère de la Culture, s'il vous plaît, pourquoi vous avez été sollicité? En quoi consiste ce livre des commémorations nationales? Je crois que ce n'est pas sans lien avec un certain compositeur toulousain auquel vous vous êtes un peu beaucoup intéressé.
Oui, effectivement. Donc, merci d'abord pour votre accueil et puis une très bonne année à tous les auditeurs. Je profite de l'occasion. Revenons à notre sujet. Effectivement, chaque année, le ministère de la Culture édite un livre qui est le livre des commémorations pour fêter les 50 ans, les 100 ans, 150, 200, 250, 300 et même 350, puisqu'en 1668, il y a exactement 350 ans, naissait un certain Jean Gilles, qui était donc un compositeur qui est né à Tarascon, en Provence, et puis qui a fait sa carrière à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse, où il est mort en 1705.
Il était maître de chapelle, c'est ça?
Il était maître de chapelle, voilà. Et donc, il a fait sa carrière à Toulouse, et en tant que, on va dire, je mets des guillemets, restant modeste spécialiste de ce compositeur sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais le ministère de la Culture m'a missionné pour rédiger la notice sur ce compositeur dans le livre des commémorations nationales.
Et c'est une notice, c'est assez consistant, c'est long
C'est deux pages.
Il y a l'aspect biographique, et puis après il y a le...
Voilà, il faut présenter le personnage, une petite biographie, et puis en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est donner envie au lecteur d'en savoir plus, et puis d'écouter sa musique, c'est ça qui compte.
Et pour écouter sa musique, en ce moment, ça passe par quoi? Par l'écoute du CD des Passions.
Et bien évidemment.
Parce que si vous avez été choisi, c'est pas par hasard, vous l'avez pas dit. Si on vous a sollicité, c'est parce qu'aujourd'hui, parmi les musiciens français, vous êtes un des grands spécialistes, peut-être le grand spécialiste, je ne sais pas, de ce compositeur.
Bon, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup, j'y ai beaucoup travaillé, je ne suis pas le seul à le connaître, mais en fait, je crois avoir bien fait le tour de ce personnage, voilà, que je souhaite mettre en valeur dès que l'occasion m'en est donnée.
Vous avez donc fait paraître un CD où il y a l'intégrale des œuvres majeures, pas l'intégrale de toutes les œuvres de Jean-Gilles, mais l'intégrale de ses œuvres majeures. Qu'est-ce qu'on y trouve dessus?
Et oui, c'est un coffret de trois CD, je le rappelle, qu'on a donc élaboré en trois sessions. Alors, en 2008, on a enregistré le fameux Requiem, c'est quand même l'œuvre la plus connue et la plus emblématique de ce compositeur, auquel on a adjoint un motet qui s'appelle Cantate Jordanis Incolae, que Gilles aurait composé, je pense, au début du 18e, vers 1701-1702, à Toulouse. Ensuite, le deuxième CD, si je me souviens bien, c'est le Te Deum, qui a été composé en 1696 ou 17 pour la paix de Ryswick, donc à Toulouse aussi, bien sûr, avec un autre motet. Et puis le troisième et dernier disque est consacré à une redécouverte. C'est la messe en ré qui n'avait jamais été rejouée depuis la messe en ré de Jean-Gilles. Moi, j'ai oublié aussi les lamentations de Gilles dans le deuxième CD.
Son grand œuvre, c'est vraiment le Requiem, c'est son grand œuvre.
Oui, c'est l'œuvre qu'il a fait identifier comme des grands compositeurs français. Et pourquoi? Parce que d'abord, c'est une œuvre vraiment très belle, je ne sais pas si on l'écoutera, qui a été jouée pour les obsèques de Louis XV, pour les obsèques de...
De Louis XV ou Louis XIV?
De Louis XV. Louis XV, ouais. Louis XIV, qu'est-ce qui a été joué pour les obsèques? J'imagine que ça devait être le Requiem de... Le nom ne me revient plus. Bref, qui était joué pour tous les enterrements des rois.
Les amateurs d'histoire iront vérifier.
Ça va me revenir, je vous le dirai tout à l'heure. Et puis donc, oui, voilà, pour Louis XV, c'est lui. Ça a été aussi joué pour les obsèques de Rameau, quand même, en 1764. Pour les obsèques de Stanislas de Pologne, le père de Marie Leszczynska. Enfin voilà, il y a eu quand même beaucoup d'occasions.
Ça veut dire qu'au XVIIIe, ça a été vraiment,
oui,
apparemment...
Oui, c'était l'œuvre emblématique pour enterrer tous les grands. C'est ça. Et puis ça a été joué aussi très souvent au concert spirituel, donc à Paris.
On va parler dans quelques instants de la saison des Passions d'Ottoman. Est-ce qu'il y aura du Jean Gilles cette année lors des concerts que vous allez interpréter?
Non. Non.
C'est l'année Jean Gilles, mais...
C'est l'année Jean Gilles, mais finalement, non, on a beaucoup joué de Jean Gilles.
Oui, bah oui.
Pardon, je reviens en arrière, c'est Eustache Ducoroy, le fameux compositeur dont on jouait le...
Je comprends que vous ne vous en soyez pas rappelé
facilement. Le Requiem pour les obsèques des rois, pardon. Sinon, non, il n'y aura pas Jean Gilles, mais il y aura beaucoup d'autres choses magnifiques aussi quand même. On va se consoler.
Nous, en revanche, on va écouter du Jean Gilles. Vous évoquiez le Requiem, mais non, ce n'est pas ce que j'ai choisi. J'ai choisi de faire écouter le motet cantaté Jean Jordanis,
Cantate Jordanis incolé, chanté habitant du Jourdain, en français.
Voilà, motet Cantate Jordanis de Jean Gilles, interprété par les Passions. Et bon, on écoute tout de suite votre version. Un extrait du motet Cantate Jordanis interprété par les Passions Montauban sous la direction éclairée de Jean-Marc Andrieux. Eh bien, on en arrive maintenant à la saison 2018 des Passions et tout d'abord au concert de ce début d'année. Quel est celui qui ouvre la saison? Apparemment, ça commence le 19 janvier.
Effectivement, maintenant c'est une tradition, au mois de janvier, on invite des jeunes solistes pour venir faire de la musique, bien sûr, à l'occasion de concerts de Nouvel An, pour inviter nos amis et tout le public à venir écouter de la belle musique. Cette fois-ci, cette année, donc le 19 janvier, comme vous venez de dire, à l'auditorium du Conservatoire à Montauban, on a invité deux jeunes musiciennes qui jouent de la viole de gambe, Mathilde Vial et Myriam Rignol. En fait, c'est un choix un peu... affectif, parce qu'en fait, c'est les filles de musiciennes qu'on connaît bien et qui font une carrière de soliste magnifique. Donc, Mathilde et Myriam sont devenues des virtuoses de la viole de gambe et j'avais vraiment envie de les faire entendre dans leur instrument magnifique.
Le titre de ce concert, c'est Viole de gambe en duo, tout est dit. Oui. En revanche, les œuvres qu'elles vont jouer ou les compositeurs, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Et non, 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 non. Là, je leur ai donné carte blanche et je préfère avoir la surprise. Je le saurai le jour.
Donc, vous-même, vous n'êtes pas au courant?
Ah non, moi, c'est concert. Surprise, je fais confiance absolue.
Ah oui, c'est ça, c'est confiance
on va découvrir
absolue.
Ensemble. On va découvrir ensemble. Oui, oui. Bon, raison de plus pour venir écouter.
Oui,
bien sûr.
Oui.
Et oui, et oui.
Et il est gratuit, je crois.
En plus, c'est gratuit. Et en plus, on partage la galette des rois. Et on boit ensemble le verre de l'amitié. Donc, tout le monde est invité.
Les plaisirs de la table, les plaisirs de l'esprit, n'est-ce pas merveilleux? Donc il faut aller à l'auditorium du Conservatoire de Montauban le vendredi 19 janvier à 20h pour profiter de tout ça gratuitement. Concert suivant qui arrive assez vite, samedi 3 février. Vous êtes dans la Haute-Garonne cette fois-ci, à l'église de Pauillac.
Oui, Pauillac.
C'est où exactement, Pauillac?
Pauillac, c'est au nord de Toulouse.
Proche quand même, périphérie toulousaine.
Oui, si vous mettez Pauillac sur votre GPS, c'est P-A-U-L-H-A-C. Voilà, c'est une très très jolie ville avec une très jolie église. Et on a rendez-vous là le 3 février pour un concert didactique qu'on a déjà joué très souvent, qui s'appelle Flûte et Flûte avec Fabien Azéma à la flûte traversière. Je jouerai la flûte à bec et on fera entendre le répertoire du début jusqu'à la fin du baroque en comparant l'acoustique de ces deux instruments et en expliquant un peu les rivalités de ces deux, les complémentarités et pourquoi la flûte à bec a disparu.
Oui, alors ça effectivement, je pense que c'est intéressant. On en a parlé il n'y a pas longtemps quand Michel Brun était venu pour le concerto de Téléman,
oui,
flûte
ouais,
à bec
oui,
et flûte traverso, dite traverso,
oui.
Et nous expliquer le moment où l'une a pris le dessus sur l'autre.
À la fin du baroque, au début des orchestres symphoniques, eh bien, c'est la flûte traversière qui a été préférée parce qu'elle avait des possibilités expressives plus étendues que la malheureuse flûte à bec.
Et une puissance aussi, je crois, supérieure, peut-être
La puissance aussi, oui, enfin, surtout la dynamique, surtout les possibilités. Parce qu'en fait, quand on a commencé vers 1756, l'orchestre de Mannheim, la création du premier orchestre symphonique, le critère absolu pour ces orchestres-là, c'était les nuances d'aller du piano le plus absolu au forte le plus fort possible. Et la flûte traversière a davantage d'aptitude à faire ces nuances-là que la flûte à bec.
Donc samedi 3 février à 20h30 à l'église de Pauillac, flûte et flûte. On arrive ensuite, alors là ça va être un des temps forts de la saison, 13 mars, c'est un mardi. Encore à 20h30, là ça se passe à Audi-Sud, à Blagnac bien sûr, dans le cadre des rencontres musiques baroques et anciennes. Et là, vous allez nous jouer quoi? Une merveille, je vous laisse dire le titre.
Et oui, 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 l'inévitable, le magnifique, le superbe, le génial,
le très connu aussi. Hein.
Le très connu Stabat Mater de Pergolèse.
Et alors avec qui vous jouez? Parce qu'il faut donner le nom cette fois-ci.
Deux interprètes extraordinaires, voilà Magali Léger qui est une soprano sublimissime et Paulin Bungen qui est un contre-ténor sublimissime aussi. Je crois que là, on n'est pas loin de la version de rêve.
Une œuvre que vous avez déjà créée avec les deux chanteurs en question, l'an passé, c'était à Montauban, dans le cadre du festival
Oui, on l'a créé à Montauban, puis on l'a repris aussi à Bergerac Festival, et puis, je ne sais plus, mais ce sera la 4e ou 5e fois qu'on le fait ensemble, et donc c'est un programme qui est bien rodé et qui va vous transporter.
Alors, je voudrais que vous nous racontiez un peu la rencontre avec Magali Léger, et par extension, parce que c'est par elle, je crois, avec Paulin Bungen. C'est un petit cadeau du ciel, quand même, d'avoir des chanteurs.
Absolument,
comme ça.
Là, il faut que je remercie Catherine Kaufmann, parce qu'en fait, c'est elle qui a fait venir Magali Léger dans sa programmation à Rochemontès. Et donc, je suis venu au concert. J'ai été, évidemment, comme tout le monde, subjugué par son talent.
Oui, elle est sublime par beaucoup de choses, Magali Léger.
Voilà, subjugué partout. Et finalement, j'ai fait sa connaissance. Et en ayant entendu sa voix, je me suis dit, mais c'est la voix idéale pour le Sabbat Mater de Pergolèse. Donc, je lui ai proposé de faire ce programme avec elle. Elle a accepté. Ce dont j'étais extrêmement touché. Et je lui ai dit, écoute, je te laisse le choix de ton partenaire. Et elle m'a tout de suite parlé de Paulin Bungen. Évidemment, je me suis renseigné, j'ai écouté, j'ai trouvé que c'était aussi magnifique. Et voilà, donc le duo de rêve.
Paulin Bungen, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, est bien français.
Oui.
Sans doute d'origine allemande.
Oui.
au moins du côté de son père, mais qui est bien français.
En tout cas, donc, c'est un contre-ténor qui actuellement fait une carrière, évidemment. Impressionnante, mais on aura la chance de la voir le 13 mars avec nous.
Bon, on ne va pas se priver d'écouter ce Stabat Mater de Pergolèse, je pense que tout le monde sera d'accord ici. Nous avons un extrait de votre version, celle des Passions de Montauban, avec Magali Léger et Paulin Bungen. C'est une suite d'extraits, vous allez reconnaître les morceaux concernés, on l'écoute tout de suite là, sur Radio Présence. Magnifique Magali Léger, Paulin Bungen, accompagné par les Passions de Montauban, sous la direction de Jean-Marc Andrieux, dans cette suite d'extraits du Stabat Mater de Pergolèse, qui vont donc donner le 13 mars à Audi-Sud, dans le cadre des rencontres baroques et anciennes. Ce sera à 20h30. Et puis notez d'ores et déjà, même si c'est un peu loin, les mêmes se produiront le samedi 14 juillet à 17h au Festival de musique sacrée de l'abbaye de Sylvanès. Magali Léger, Paulin Bungen, les Passions de Montauban. On avance un peu plus dans votre saison et on est toujours en mars. Alors là, c'est quelque chose de très particulier pour deux raisons. D'abord parce que c'est un concert qui sera donné au profit d'une association caritative. Ensuite parce que les musiciens qui vont jouer, la composition de l'ensemble qui va jouer ce concert est aussi très spéciale. Ça se passera à Saint-Orens de Gameville le 29 mars à la salle Lauragais, que personnellement je ne connais pas. On connaît tous Altigone, c'est pas Altigone.
C'est une nouvelle salle. Hein.
Nouvelle salle. Parlez-nous un peu de ce concert intitulé Vent des Royaumes.
Oui, un concert assez original, puisqu'en fait c'est un échange, un mélange, une collaboration, un partenariat avec des musiciens d'Extrême-Orient. Et donc il y a 5 ans, je crois déjà, commencé une production avec des musiciens chinois et taïwanais. Ça s'est passé au Capitole, dans le cadre du festival Made in Asia, où là on a rencontré donc, des musiciens asiatiques. Ça a été un tel choc. Musique, il n'y a pas de frontières, on a tout de suite sympathisé, puis on a eu un grand plaisir à faire de la musique ensemble, et on n'a eu qu'une envie, c'est de recommencer. Avec Jian Nan, donc, qui est une musicienne chinoise qui vit à Toulouse, hein, qui joue de la sitar, le guzheng, ça s'appelle en chinois, un instrument extraordinaire. Peut-être vous le ferez entendre
bien sûr
tout à l'heure. Et donc, on lui a proposé de recommencer, de faire une collaboration. Elle, évidemment, elle était d'accord parce qu'on s'était régalé déjà avec elle. Et cette fois-ci, on a invité Yiping, qui est une percussionniste taïwanaise qui était déjà à la première production, une percussionniste extraordinaire. Et le troisième musicien qui s'est joué à nous, c'est Mandahai, qui est un jeune chanteur de Mongolie, qui est donc mongol et qui...
installé en France aussi, je crois.
Qui vit en France aussi. Et qui, lui, est spécialiste du fameux chant diphonique, un chant ancestral.
Il faut vous expliquer ce que c'est, ça, le chant diphonique.
Le chant diphonique, c'est une technique de chant qui consiste à chanter avec une voix gutturale
de gorge, ça, vraiment
de gorge,
très...
un son fondamental, et de placer la langue d'une certaine façon dans la cavité buccale, de façon à amplifier certaines harmoniques et de créer une deuxième voix artificielle avec les harmoniques du son fondamental.
Il faut bien préciser, pour ceux qui découvriraient in situ ce chant, qu'il n'y a pas d'accessoire, c'est vraiment fait
aucun accessoire.
La gorge,
non.
La langue.
Non, c'est juste fait avec l'artifice de la position de la gorge et de la langue.
Parce que quand on l'entend, on se demande comment un humain
gens,
peut quand, produire un son
quand
comme
on
ça.
Entend ça, les gens ils se demandent d'où ça vient, et c'est assez magique, ouais, extraordinaire. Et donc on a eu un bonheur complet de participer à ce projet ensemble, où eux ont joué de la musique baroque avec nous, ils jouent donc des œuvres de Jean-Marie Leclerc avec nous, et nous on joue leur musique qui est à la fois un mélange de musique traditionnelle, mais aussi de la création, puisque eux-mêmes composent et adaptent de la musique traditionnelle qui rendent moderne.
Est-ce que c'est appelé à se poursuivre cette aventure avec ces musiciens, ou peut-être avec d'autres, c'est-à-dire de vous ouvrir à d'autres musiques, on dit musiques du monde aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le terme adéquat.
Oui, on a bien sûr, enfin bon, mais c'est vrai que c'est presque un peu une mode, mais je ne suis pas dans cette logique de mode, mais vraiment dans une logique de partage.
Et d'exploration aussi.
Et d'exploration, et puis d'échange. Il n'y a pas de frontières, la musique, il n'y a pas de frontières. Il faut faire comprendre aux gens que c'est un langage universel qui s'adresse au cœur directement. Et on a autant de plaisir, de bonheur aussi à aller jouer avec des chanteurs boliviens, par exemple, quand on fera la tournée
au
mois d'avril. Voilà, c'est la même démarche, c'est de participer ensemble, de partager des moments de plaisir musical.
Puisque vous évoquiez Vendée Royaume, son programme et les musiciens qui composent l'ensemble qui va le jouer, et on va entendre là, justement ce chant diphonique, je vous propose d'écouter un extrait de Vendée Royaume, les passions, avec les musiciens dont Jean-Marc Andrieux vient de vous parler.
Thank you.
Quelques extraits du programme Vendée Royaume des Passions de Montauban à découvrir le jeudi 29 mars à 20h30 à la salle Lauragais de Saint-Orens-de-Ganneville. Alors là, on l'a entendu, le chant diphonique à la fin. Et ce que je voulais dire, c'est que ce ne sont pas des onomatopées, ce sont des paroles.
Et oui, il chante en mongol dans sa langue natale. Évidemment, on ne comprend rien à ce qu'il chante, mais il nous a dit que c'est très poétique. C'est un hommage au désert de Gobi, aux grandes étendues. Il y a des références aussi aux chevaux qui ont une grande importance
dans la culture mongole,
avec sa
dans la vie quotidienne.
À des moments avec sa vielle, il imite le hennissement du cheval. Enfin, c'est extraordinaire.
Je suis très déçu parce que je pensais que vous parliez le mongol couramment, Jean-Marc Andrieux.
Mais j'ai acheté le mongol pour les nuls et je vais m'y mettre.
Bon, il y a sûrement du travail, moi je ne m'y essayerai pas. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur scène, ils sont en habit traditionnel.
Oui.
Donc c'est très coloré, très exotique, évidemment.
Oui, c'est magnifique. Et puis d'ailleurs, on est un peu jaloux parce qu'ils sont beaucoup plus beaux que nous.
Je l'ai dit juste avant de parler du programme de ce concert. Ce concert du 29 mars a aussi un objectif caritatif. Vous pouvez peut-être nous préciser les choses.
Oui, c'est très important de dire ça. Il faut bien écouter. En fait, c'est un concert qui est créé en collaboration avec le Rotary Club Toulouse-Lauragais. Et il s'agit, pour ce projet-là, de soutenir une association qui s'appelle Espoir. Et cette association créer une opération Femmes Invisibles. Ça, c'est vraiment important, il faut se renseigner. Il s'agit d'aider les femmes dans la rue. On parle souvent des gens dans la rue, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent dans la rue, qui sont abandonnées et qu'on souhaite aider. Donc, les passions, nous souhaitons chaque année consacrer une part de nos activités à des opérations caritatives. Et celle-ci, pour nous, a beaucoup d'importance. Donc, on souhaite aider et je lance, bien sûr, un message à tout le monde. Venez, même si cette musique ne vous attire pas, venez quand même soutenir cette association et le Rotary Club le 29 mars.
Oui, ayez bien ça à l'esprit. Donc, je rappelle la date, jeudi 29 mars à 20h30 à la salle Lauragais de Saint-Orens-de-Ganneville. Et puis, notez que ce même programme Vendée Royaume sera donné le dimanche 15 juillet. Je n'ai pas l'horaire, en revanche. C'est à Galambrun, dans la Haute-Garonne, au festival Danse et Musique pour tous, mais je n'ai pas l'horaire, et il sera précisé, je pense, ultérieurement.
Tout cas, si vous voulez savoir, c'est sur le site de l'orchestre, les-passions.fr, vous aurez tous les renseignements.
Que je rappellerai à la fin de cette émission. Mmh. Alors, autre grande échéance pour les passions en 2018, la tournée, parce que les tournées, vous y avez pris goût apparemment, et les tournées pour vous, c'est l'Amérique du Sud. Donc, cette tournée a lieu en Bolivie, au Chili et au Brésil. Vous allez préciser un peu les villes qui seront concernées, et puis surtout, qu'est-ce que vous allez interpréter? Vous partez à combien? C'est tout l'effectif qui part?
Là, on part à une dizaine, là, quand même, c'est un effectif assez important, parce qu'en fait, c'est la troisième fois qu'on y va, et on est invité, c'est un festival qui s'appelle Misiones de Chiquitos, c'est le festival qui est orienté sur la musique d'Amérique du Sud à l'époque des missions jésuites au XVIIIe siècle, et on joue leur musique, donc c'est la troisième fois qu'on est invité à ce festival, et cette fois-ci, on va travailler avec un chœur professionnel, le seul chœur professionnel bolivien, Aracaendar, pour un projet de restituer leur musique des missions jésuites.
Ça, c'est du 20 au 22 avril.
Voilà, donc la Bolivie. S'il y a des gens qui se trouvent en Bolivie à ce moment-là, donc rendez-vous le 20 avril à l'église de San Javier, le 21 avril à Concepción, et puis le 22 avril à Santa Cruz, qui est la ville à l'est donc de la Bolivie, vers l'Amazonie, qui est une grande ville économique de Bolivie et qui est le cœur du festival.
Non, mais cette fois-ci, vous ne vous limitez pas à la Bolivie. Après, vous allez vous rapprocher de la cordillère des Andes, descendre le long de la cordillère des Andes pour arriver au Chili.
Et voilà, on reprend donc un avion, évidemment, et puis on se retrouve à Santiago du Chili, les 24 et 25 avril, où là, on va jouer invité par le Festival international de musique ancienne européenne et américaine.
Ça, c'est une première, vraiment. Hein.
Il y a deux ans, on avait déjà été invité, et comme ils ont beaucoup apprécié, ils nous réinvitent cette fois-ci, on y revient. Et par contre, la nouveauté, c'est le Brésil. On n'y était pas allé, on était allé au Pérou la première fois et l'année dernière, et cette fois-ci, c'est le Brésil qui nous invite, donc São Paulo et Recife, et du 26 au 28 avril, où on a deux concerts prévus à ce moment-là.
Donc un à São Paulo et un à Recife.
En l'état actuel des choses, je crois que c'est ça le projet pour le moment, oui.
Et qu'est-ce que vous allez jouer? Là, c'est un autre programme?
Alors là, le programme, en fait, en Bolivie, donc, c'est la musique des missions, avec des musiques de compositeurs italiens qui ont émigré en Bolivie à cette époque-là. Mais sinon, au Chili et au Brésil, on présentera un voyage dans l'Europe baroque. Donc, fera entendre la musique baroque d'Europe, France,
Allemagne. Le titre, c'est une soirée à Potsdam, un voyage dans l'Europe baroque. Pourquoi Potsdam?
Potsdam, parce que en fait c'était la ville de résidence de Frédéric II, roi de Prusse, qui faisait venir dans son château les plus grands musiciens européens. Lui-même jouait de la flûte, c'était un soi-disant virtuose. Je ne sais pas s'il jouait très bien, personne n'aurait osé le critiquer de toute façon.
Certainement pas.
Et donc, il faisait venir dans son château les plus grands musiciens français, italiens, allemands. Et donc, l'idée c'est de faire entendre un peu ce qui s'est passé dans ce château à cette époque.
Voilà, alors il y a encore beaucoup d'autres dates, parce que c'est une année très fournie. Je ne sais pas si c'est comme ça tous les ans, mais il y a vraiment beaucoup de dates tout au long de cette année 2018, et notamment jusqu'à la fin de l'été quasiment.
Oui, il y a beaucoup d'activités. C'est vrai qu'en principe, on a un calendrier
bien rempli.
C'est bien rempli, mais alors cette année,
c'est dense.
C'est beaucoup plus dense que
d'habitude. C'est dense, avec des programmes très variés souvent.
C'est cela, voilà, mais on ne va pas s'ennuyer, on ne va pas s'en plaindre non plus.
D'ailleurs, je viens de voir, concernant Vendée Royaume, qu'il y avait une autre date le mercredi 11 juillet.
Oui, ce sera repris, je crois.
À Gaillac, dans le cadre du festival Medinazia, en juillet à 21h.
Voilà, oui.
Vendée
on
Royaume.
On reprend Vendée Royaume, là aussi sur le site les-passions.
Oui, je pense que voilà, pour ceux qui veulent voir vraiment tout le détail et l'intégralité de la saison et des dates des Passions de Montauban en 2018, allez vous connecter au site de l'orchestre, ce sera plus simple. On va maintenant parler d'un autre concert, d'autres concerts d'ailleurs. Ce que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse, comme chaque mois, à Saint-Pierre-des-Cuisines, à l'escale de Tournefeuille. Les prochains ont lieu les 15 et 16 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines et les 18 et 19 à Tournefeuille. Le programme est intitulé Joplin. On va vous expliquer pourquoi, et je précise qu'il ne s'agit pas de Janis Joplin, mais bien de Scott Joplin. Ce qui rend ces concerts encore plus particuliers, c'est que celui qui va diriger l'orchestre de chambre ces soirs-là s'appelle Frédéric Lodéon. Alors, on le connaît bien sûr comme homme de médias, Frédéric Lodéon, pour son émission Carrefour de Lodéon sur France Musique, et parce qu'il co-anime chaque année les victoires de la musique classique à la télévision depuis déjà pas mal de temps. Mais ce qu'on oublie, voire ignore parfois, et c'est bien dommage, c'est qu'il a d'abord été un grand musicien. Alors peut-être que Serge Chosy peut nous en parler. Ça a été d'abord un très grand violoncelliste.
Ah mais oui, et j'ai le souvenir d'une intégrale des suites de Bach pour violoncelle qu'il avait donnée dans la chapelle des Carmélites. Je me souviens, c'était un hiver, il faisait un froid de canard. Et Frédéric Lodéon s'est adressé à l'audience en disant « Je vous plains beaucoup, moi au moins je bouge », disait-il en jouant ses suites.
Ça doit dater.
C'est très ancien, oui. ça doit dater de plus de 20 ans, effectivement. Et donc, il avait donné ça. Il faisait beaucoup de musique de chambre. En tant que violoncelliste, il a enregistré d'ailleurs notamment les deux trios de Schubert, etc. Donc, ça a été un grand violoncelliste et également chef d'orchestre.
Voilà, alors ça, c'est moi j'ignorais. Qui dirigeait ?
Si, il dirige.
Peut-être plus rarement maintenant, sans doute. Hein.
Oui, maintenant plus rarement, mais à une époque, il a beaucoup dirigé.
Oui. Grand violoncelliste qui fut le premier co-lauréat. Il y avait deux lauréats pour le premier prix Rostropovitch. C'était il y a plus de 40 ans, en 77.
Et voilà.
Mais lorsqu'on regarde la liste des lauréats, on voit la première édition, lauréat Frédéric Lodéon avec un violoncelliste russe dont j'ai oublié le nom. Donc chef d'orchestre cette fois-ci pour ce programme Joplin. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui connaît Scott Joplin et qui pourra en parler ?
Tout le monde a au moins entendu.
Voilà, vous voulez entendre dire. Oui. Voilà, grand pianiste de ragtime, vraiment des débuts du jazz, hein, ce qu'on appelait le ragtime. Et puis très connu pour une œuvre qui illustre, qui est la bande originale d'un film très connu. Quel est ce film ?
L'Arnaque.
L'Arnaque, voilà. Avec les deux acteurs principaux.
Alors,
s'il y avait des dames ici, elles auraient tout de suite trouvé. Les hommes, ils font semblant de pas se rappeler.
Bourville.
C'est presque ça. Il y en a un qui a les yeux bleus comme Bourville, c'est vrai.
Paul Newman, non ?
Oui.
Paul Newman.
Et l'autre ?
Charles Bronson.
Non. Un blond que toutes les femmes adorent de cette génération.
Redford.
Voilà, Robert Redford.
Robert Redford. Et le titre original, c'était The Sting. The Sting.
Ouais. Et alors, et le ragtime qui est utilisé pour la musique, c'est The Entertainer.
Voilà. The Entertainer, eh bien voilà, ils ont tout dit. Moi, j'ai plus rien à dire. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure sur le programme donc, de ce concert. Mais on va écouter une version de The Entertainer de Scott Joplin. Et c'est une version interprétée justement par un orchestre à cordes. Que tout le monde se sera remémoré en écoutant cette musique des images du film L'Arnaque et de Robert Redford et Paul Newman, The Entertainer de Scott Joplin, une version pour orchestre telle que devrait la donner l'orchestre de chambre de Toulouse sous la direction de Frédéric Lodéon lors des concerts du lundi 15 et mardi 16 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines, ainsi que les jeudis 18 et vendredi 19 janvier à l'Escale de Tournefeuille. Ces quatre concerts commencent à 20h30, un programme américain où l'on retrouve d'autres œuvres de Scott Joplin et des œuvres d'Arthur Foote. de Samuel Barber, son fameux adagio, et de Victor Herbert. Vous pouvez réserver vos places et en savoir plus en consultant le site de l'orchestre www.orchestredechambredetoulouse.fr. Eh bien, merci à tous les deux, Serge Chosy et Jean-Marc Angrieux, pour votre venue à cette émission que vous avez brillamment contribué à animer. Je rappelle les dates des prochains concerts de l'Orchestre des Passions de Montauban. Vendredi 19 janvier à 20h, viol de gambe en duo à l'auditorium du Conservatoire de Montauban. Ce concert est gratuit et il y a la Galette des Rois ensuite. Samedi 3 février, flûte et flûte à 20h30 à l'église de Pauillac, c'est en Haute-Garonne. Et puis notez aussi le Stabat Mater de Pergolèse, donné le mardi 13 mars à 20h30 à Audissus de Blagnac, lors des rencontres des musiques baroques et anciennes. Pour connaître tout le détail de la saison de l'orchestre, vous pouvez consulter le site www.les-passions.fr. Je signale également que le pianiste Philippe Cassard donne ses notes du traducteur mardi 16 janvier à 18h15 et 21h à l'auditorium du musée des abattoirs. C'est dans le cadre de la saison bleue et c'est le concerto pour piano numéro 1 de Brahms que Philippe Cassard va disséquer. Autre rendez-vous à noter, le second concert de la saison qu'organise l'association Gabriel Forêt à l'espace Palumbo de Saint-Jean. Deux dates à retenir pour ce programme intitulé Flûte et Fuite, rien à voir avec celui des passions que j'évoquais il y a quelques instants, mais c'est le même titre, mardi 16 janvier à 20h30 et mercredi 17 à 14h30 pour le jeune public. La régie technique de cette émission était assurée par Christophe Aubry. Ce numéro est réécoutable en podcast dès aujourd'hui en le téléchargeant sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et profitez bien de cette très belle semaine musicale.